17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, mon grand témoin aujourd'hui, Stéphane Tautuy. Bonjour Stéphane.
Bonjour Monsieur Khétan.
Vous êtes candidat à la présidence de la République, je dirais plutôt candidat à la candidature.
Tout à fait.
Vous êtes d'origine africaine, vous êtes d'origine ivoirienne, vous êtes surtout français. Vous faites partie de ce qu'on appelle la diaspora, les binationaux, qui sont très à la mode depuis quelques temps, notamment avec le sommet de Montpellier que Emmanuel Macron a organisé en accueillant la diaspora africaine, en aide pour monter une nouvelle donne en Afrique avec les Africains, les Français d'origine africaine, comme il le fait d'ailleurs en Méditerranée, avec les gens d'origine méditerranéenne, nord-africaine et autres. Donc, bienvenue. Et donc, aujourd'hui, vous êtes candidat à la candidature à la présidence de la République. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes candidat. Un de plus, qu'est-ce que vous apportez? Quelle est la plus-value? Est-ce que c'est pas une candidature communautariste? Est-ce que c'est une candidature citoyenne? Est-ce que c'est comment vous positionnez par rapport au parti politique? Est-ce que vous-même vous êtes dans un parti politique? Quelle est l'attitude du parti politique puisque vous êtes conseiller municipal de Malakoff, divers droite après avoir été UMP et LR. Donc aussi quelle est votre famille politique et comment elle accueille cette candidature? On va aborder tout ça. Alors tout de suite, je voudrais aborder une question avec vous un peu emblématique. Barack Obama a été président des États-Unis.
Oui.
Il est d'origine africaine.
Oui.
Kamala Harris est d'origine africaine, elle est vice-présidente des États-Unis.
Oui.
Elle est noire. Qu'est-ce qui reste de cette africanité, entre guillemets, de cette négritude, comme dirait Aimé Césaire? Qu'est-ce qui reste lorsqu'on est, on atteint de tels niveau de responsabilité? Il reste quoi? Je pourrais parler même du maire de Londres, qui est d'origine indienne. Qu'est-ce qui reste de ses origines? Est-ce que on est complètement fondu ou il y a quelque chose, une plus-value et quelque chose en plus? Peut-être une question, vous voyez, un peu générale pour commencer l'émission.
D'accord. Donc, en tout cas, merci de me recevoir sur votre radio Beurre FM. Sachez une chose, souvent, l'amalgame fait qu'on confond binationalité avec des origines. Je peux avoir des origines, mais je ne sais pas forcément que j'ai la binationalité. Et donc, on vous révélait en disant Barack Obama était à la fois africain et américain.
D'origine.
Ouais, d'origine. Il a plutôt des origines. Mais est-ce qu'il a vécu en Afrique? Parce qu'on peut avoir des origines sans vivre en Afrique totalement. Donc, on ne sera pas imprégné de la culture africaine. On aura simplement l'éducation que les parents vont transmettre, qui sera une éducation qui correspond à ce qu'ils ont eu de l'Afrique, mais n'ont pas vécu certaines choses. Or, aujourd'hui, quand on est en France, on a grandi, on a vécu en France, on va dire, on s'adapte, on s'acclimate, je dirais. Donc, ce qui fait qu'on est plutôt, pas assimilé, on est plutôt intégré. Donc, par cette intégration, on respecte les us et coutumes du pays, on respecte, on va dire, l'entendement, ainsi que la population. Donc, on a un vécu, on a une manière de voir qui est différente, je dirais, de l'Afrique. C'est comme si on regardait dans des jumelles, et donc on voit l'Afrique de loin, on essaie de rapprocher à chaque fois avec les jumelles pour essayer de calquer. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas se revendiquer en disant « oui, je suis africain, voilà ». Non, on va dire simplement « j'ai des origines africaines, je comprends ce qui se passe avec l'Afrique, je suis avec certains Africains, puisque comme on dit, hein, lorsqu'on se ressemble, on se rassemble, on ne va pas se rejeter, donc on va rapidement vers des Africains pour pouvoir se sentir un peu en famille. Bon, la République dit qu'il ne faut pas avoir de côté communautariste, donc je ne vais pas faire la promotion du communautarisme. Mais je ne dirais pas que je refuserais de me rapprocher des miens, des Noirs ou des Arabes, qui sont Africains aussi, d'origine. Donc c'est ce qui fait que la
c'est un peu ambigu et c'est un peu compliqué. Et des fois, ça crée de véritables schizophrénies. Lorsque Barack Obama fait son discours du Caire, c'était un discours qui a été accueilli, mais de façon extraordinaire. On s'est dit, une nouvelle donne commence. Et c'était une synthèse, pour beaucoup, entre le combat de Nelson Mandela, celui de Martin Luther King, celui des luttes contre l'esclavage, contre les discriminations, etc. Et ce discours du Caire a été absolument bien accueilli. Et ensuite, on a vu que, finalement, Barack Obama ne faisait que reproduire le sanglot de l'homme blanc.
Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que beaucoup font des promesses. Ils viennent faire des beaux discours pour être applaudis, pour dire « oui, voilà, je rentre dans l'histoire ». Mais en vérité, ce n'est pas l'histoire qui nous intéresse, c'est ce qu'on transmet pour l'histoire. Et donc moi, quand je veux me présenter, je veux me lancer, c'est de transmettre quelque chose pour que les enfants, les descendants puissent dire « ah oui, effectivement, il y a eu un combat qui nous permet d'avancer ». Quand vous citez Nelson Mandela, qui se bat et qui accepte d'être en prison, pour ses idées, qui continue à défendre ses idées, il sort et il dit à ses bourreaux, je vous pardonne, travaillons ensemble pour construire une nouvelle Afrique. Vous voyez ?
Et en même temps, il a dit aussi, ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous.
Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir autrement en disant, pourquoi ne pas mettre la cohésion entre nous ? On a une seule planète, la planète Terre. Qu'on soit noir, arabe, blanc, caucasien, asiatique ou quoi, on est sur la même planète que la Terre.
Alors, on va revenir à votre candidature.
Tout à fait.
Alors, comme tout bon candidat à la présidence de la République qui se respecte, les candidats en général partent d'un terroir, ils partent du fond de la France. vous êtes parti de la Sarthe.
Tout à fait.
Vous avez dit, voilà, vous êtes allé dans la Sarthe et vous avez annoncé votre candidature au fin fond de la Sarthe.
Tout à fait.
Vous avez des racines sartoises ?
Ben, je dirais, oui, j'ai des racines sartoises. Déjà, je suis d'une association là-bas, des protecteurs de la nature et des chasseurs. Donc, dans la Sarthe, à nos gens les
Vous n'allez pas être copain avec les écologistes, hein, si vous êtes copain des chasseurs.
Ben, la chasse ne veut pas dire forcément détruire la nature. Au contraire, il régule la nature. Parce que c'est ce qu'on oublie. Bon, ces derniers temps, on a dit, y a certaines personnes qui ont fait des abus en tirant proche des piscyclabs, proche de l'autoroute, donc il y a eu des blessés. Mais tout le monde est maître de son arme. C'est comme quand on passe un permis. Lorsqu'on conduit une voiture, on dit, t'es maître de ton véhicule. Mais est-ce pour autant ceux qui font des embardés ou autres, on va dire, on s'en veut à tous les automobilistes ? Non. Donc c'est la même chose. Et aujourd'hui, moi, la Sarthe, c'est un territoire qui parle à tout le monde. C'est pas loin de Paris, on se sent vraiment dans le terroir. C'est une zone qui est vraiment boisée.
Alors vous êtes où ? Vous êtes de Malakoff ? Vous êtes de Côte d'Ivoire ? Vous êtes de la Sarthe ? Vous êtes d'où, Stéphane Toutu ?
Ben, je me définis de la Sarthe par adoption. J'habite à Malakoff pour des besoins, je dirais, professionnels. Et c'est là que j'habite. Ça fait maintenant 15 ans que j'habite à Malakoff. Et je suis d'origine ivoirienne. Je suis arrivé, on va dire, en France définitivement en 2000, donc 99-2000, après avoir subi un coup d'État, puisque mon père était le chef d'état-major de l'armée de terre en Côte d'Ivoire. On a subi un coup d'État où il a été brimé jusqu'à ce qu'il reste dans un coma et qu'il décède. Moi, j'ai pris une balle à la tête et tout ça, mais il faut passer cela. Il faut passer le cap et pardonner et avancer. Donc, comme je crois au destin, je me dis, si le destin m'a amené à être en France, à rentrer dans mon pays, je dirais, de naissance, tout ça... quand je dis naissance, je ne suis pas né en France, je suis né en Afrique, mais j'ai grandi ici par rapport aux parents qui sont français, donc je dis naissance.
Et en même temps, quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi pénétrer, entre guillemets, le rêve français ou comme on connaît le rêve américain ? C'est-à-dire que cette capacité citoyenne de pouvoir se présenter face au suffrage universel, vous l'avez en France, vous pourriez l'avoir en Europe, dans un autre pays européen ou aux États-Unis, mais en Afrique, vous n'aurez pas pu l'avoir.
Non, pas aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il faut être né sur le territoire américain.
Mais voilà, d'accord.
Sinon, on ne peut pas se présenter. En France...
Ce que je voulais dire, c'est que ce rêve, vous pouvez l'avoir dans un espace démocratique, mais pas en Afrique, c'est ça ?
Si en Afrique, on peut l'avoir.
Pas dans votre pays d'origine.
Si en Afrique, on peut l'avoir, mais n'oublions pas une chose, c'est qu'en Afrique, quel que soit le pays en Afrique, la démocratie est souvent limitée. Parce qu'on est entre...
Est-ce qu'on peut dire qu'en Afrique, c'est les coups d'État permanents ?
Non, mais les coups d'État qui provoquent les coups d'État...
On parle plus souvent de coups d'État que d'autres choses.
On parle plus de coups d'État parce que, tout simplement, là-bas, les gens vivent par rapport aux intérêts, soit économiques, de certaines industries, de certains lobbies, de certains groupes. Donc, du coup, lorsqu'on ne rentre plus dans les cases du tuteur, on se fait, on va dire, chasser. Donc, un coup d'État qui est lancé.
Alors, Stéphane Toutu, vous êtes candidat à la candidature. Vous êtes parti donc, vous avez annoncé votre candidature dans la Sarthe. Vous êtes un élu. Vous êtes aussi un chef d'entreprise. Vous êtes tranquille. Vous êtes dans une famille politique qui est l'UMP, les Républicains, enfin la droite, de façon générale, vous êtes divers droite. Qu'est-ce qui amène un Stéphane Toutu intégré, chef d'entreprise, tranquille, qui est une famille politique, à dire, mais moi, non, je ne suis pas d'accord avec tout ça, je veux être candidat. Qu'est-ce qui vous a fait sortir de vos gongs ? Qu'est-ce qui vous fait sortir de voilà. Pourquoi cette candidature ?
Le pourquoi, c'est déjà après la mémoire de ce qu'on a vécu un peu en Afrique et dans le monde entier. Si vous remarquez, j'ai fait le lancement de ma candidature à la candidature le 12 novembre, au lendemain du 11 novembre. Un symbole. La République, la France, a subi, avec le monde entier, ont subi un problème je dirais, de compréhension, d'intérêt. Et donc, on a eu la guerre mondiale. Et donc, on mémorise ça avec le 11 novembre, l'armistice. Mais aujourd'hui, moi, je me suis dit, je regarde, ça fait plus de 40 ans, puisque j'ai 42 ans, ça fait plus de 40 ans que je regarde les présidents, des politiques, tout le monde se suicide, mais rien n'avance. Vous avez parlé au début du rêve américain. Il y a le rêve aussi français. Mais les Français n'arrivent plus à rêver. Ils n'ont plus d'espoir. Analysant cela, voyant mes enfants, voyant ma famille, voyant les enfants des autres quand je vais à la crèche, à la maternelle pour récupérer mes enfants, je me dis, mais qu'est-ce qu'on leur laisse en héritage? Et cette division, cette difficulté, quand je vois des personnes âgées dans les cafés ou dans les restaurants qui n'arrivent même plus à s'acheter un petit café à 1,35€, je me dis, il y a un problème en France. C'est quoi le problème? C'est qu'aujourd'hui, les gens ne s'occupent plus de l'humain.
C'est-à-dire que pour vous, il y a beaucoup plus de précarité, beaucoup plus de discrimination, beaucoup plus d'inégalité.
Tout à fait.
Et c'est contre ça que vous vous élevez, c'est ça que vous voulez combattre?
Tout à fait.
Alors comment alors? Avec quels outils?
Avec les outils, aujourd'hui, de la démocratie, on n'est pas dans un pays banal.
Alors vous êtes président d'une association de binationaux, entre autres.
J'étais président de l'association des élus binationaux. Et quand je disais ça au début, pour vous dire une petite anecdote, c'est qu'on m'attaquait en disant, mais oui, c'est parce que vous êtes noir, donc vous faites un truc entre noirs. J'ai dit non, les binationaux, quand on est français, on est européen, donc on est déjà binational. Donc par rapport au fait qu'on appartient à deux institutions, on a la binationalité, la nationalité européenne, puisque l'institution européenne existe, et la nationalité française, puisque on est dans un pays indépendant et libre. Donc vu cela, cette association était de regrouper des élus à apprendre la politique, à comprendre la politique, à comprendre et à servir les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des politiques qui viennent récupérer des jeunes dans les cités, qui viennent récupérer des personnes actives et qui disent, venez sur ma liste, vous avez des élus. Et quand ils sont élus, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais pratiqué.
Alors justement, vous allez nous expliquer comment vous voulez, comment vous voulez amener ces jeunes vers vous. On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Avec Stéphane Tautuy, candidat à la présidence de la République en 2022, conseiller municipal de Malakoff, chef d'entreprise, président d'un collectif de binationaux. Et vous nous avez raconté un petit peu votre ce pourquoi vous vous présentiez. Et lors d'une de vos déclarations, vous avez dit haut et fort, je salue l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Que représente Joséphine Baker pour vous?
Joséphine Baker représente, on va dire, un symbole, un grand symbole. Une Américaine aimant la France, aimant la République, qui est revenue en France pour pouvoir défendre la France. Défendre, on va l'humain. À l'issue de cela, elle est allée aux États-Unis pour continuer à se battre au niveau des Nations Unies pour qu'on reconnaisse le côté humain et non le côté racial. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, quand on voit la société, on voit c'est un candidat qui attaque les origines des personnes, qui attaque le côté de la peau. Ben, pourquoi? Moi, j'ai une anecdote à chaque fois quand je dis, pas une anecdote, c'est que c'est ce qu'avec mon père, on discutait souvent. On disait, quand on est, on ne choisit pas son sexe, ni ses origines, ni sa couleur de peau, les couleurs des cheveux et des yeux. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas la langue qu'on parle.
C'est la chanson de Maxime Le Forestier, voilà. Née quelque part.
Tout à fait, mais on peut quand même choisir quelque chose. Où on veut vivre, avec qui on veut vivre, pourquoi on veut vivre, et pour qui on veut vivre, et pourquoi on veut défendre pour le futur.
Pourquoi on veut se battre. Et
tout à fait. Et donc moi, j'ai choisi de vivre en France. J'ai choisi de défendre la République, de défendre la patrie, de défendre...
Vous êtes déjà dans un parti politique. Alors comment ça se passe? Comment ça a été accueilli, votre candidature, dans votre famille politique?
En vérité, je ne suis plus, on va dire, UMP depuis 2011. Après, quand c'est passé LR, j'ai pas trop aimé parce que c'était trop devenu proche de la droite, je dirais, nationaliste. Donc j'ai préféré m'écarter et créer ce qu'on appelle à Malakoff le Malakoff citoyen, qui est un pont démocratique, ça rassemble tout le monde. Mais aujourd'hui, pour cette candidature à la présidentielle, j'ai créé plutôt la laïcité politique.
Alors, laïcité politique, alors expliquez-nous ce concept.
Le concept de laïcité politique, c'est que comme la laïcité religieuse, c'est je regarde pas ta foi, je regarde pas ta croyance, tu dois respecter les droits et les devoirs de la République, et surtout l'État ne doit pas s'ingérer dans ta foi. Et tu dois vivre comme tout le monde sans gêner celui qui t'entoure. La même chose aussi en politique. Que tu sois de droite, de gauche, du centre, tu es avant tout français. tu dois défendre la République, défendre chaque citoyen. Et donc, ce que je recherche en tout citoyen, c'est d'abord ses compétences et ses qualités. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, quand on voit et que vous entendez les discours des politiques aujourd'hui, c'est moi la gauche, si je gouverne, moi la droite, si je gouverne. Mais si vous gagnez que vous gouvernez, allez-vous mettre à la porte ceux de, qui sont opposés à vous? Non, ils font partie de la France. Donc, il faut travailler avec elles, savoir les écouter, les rassembler, les motiver à ce qu'ils soient vraiment une perle pour la République. Parce qu'avant tout, on le voyait sur les frontons, je dirais, des mairies, des institutions, c'était marqué « Liberté, égalité, fraternité ou la mort » pour montrer que la République est une et indivisible.
Alors, la France est un État, une nation et une République.
Tout à fait.
Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui est essentiel dans la République ?
Ce qui est essentiel, c'est d'abord les citoyens.
Alors, c'est quoi la citoyenneté pour vous ?
La citoyenneté, c'est d'abord un peuple qui vit et qui défend une valeur, qui défend, je dirais, des dogmes d'une république qui est rassemblée. D'où la fraternité, c'est-à-dire qu'on est fraternel, on est une famille, on est ensemble. C'est ça, la république. La république, c'est défini aussi par sa frontière. C'est défini par ses lois et ses codes. Aujourd'hui, beaucoup oublient, ils se proclament tous d'avoir des droits. Mais les devoirs de la République. Et lorsqu'on ne respecte pas ces devoirs de la République, à un moment, on est stigmatisé par les autres en disant « Mais vous voyez, ceux-là, ils sont des pièces à porter, vous voyez ce qu'ils font. » On n'est pas des pièces à porter, on est des humains.
Pour vous, la République, vous la défendez, mais est-ce que vous pensez que la République fait tout pour ses citoyens ? Parce qu'il y a quand même des gens sur le bord du chemin. Les inégalités sont importantes, les discriminations demeurent. Il y a une précarité, on le voit notamment pendant cette période de crise sanitaire. Il y a eu une catastrophe du point de vue des vaccinations, du point de vue par exemple sur le plan de la scolarisation, où des enfants ont raté voire un an, voire deux ans de scolarité. Oui. Donc qu'est-ce que vous proposez pour pallier justement à ces inégalités, à cette précarité ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Mais déjà, sachez qu'aujourd'hui...
Des nouvelles lois, des nouveaux cadres, une réforme de la Constitution, des référendums ?
Vous voyez, je dirais une nouvelle loi, je dirais une nouvelle Constitution, disons, pas une nouvelle, mais améliorer la Constitution, mais surtout rendre la démocratie participative. Parce qu'aujourd'hui,
c'est
ça.
Elle n'est pas assez participative.
Elle n'est pas assez participative, parce qu'elle est plutôt c'est une démocratie représentative. On élit des personnes qui sont censées nous représenter. Mais souvent, ils ne sont même pas sur le terrain.
Donc, il faudrait nommer des gens, faire un tirage au sort pour certains députés, certains sénateurs.
Non. Cela, c'est vraiment utiliser les personnes souvent qui ne sont pas compétentes. Il faut plutôt voir la compétence des personnes. Il faut d'abord laisser les citoyens choisir et aussi demander aux citoyens de participer. Je ne veux pas retirer, je dirais, du pouvoir aux institutions, mais juste compléter et améliorer. Vous savez, il y a un écrivain qui disait la démocratie, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt la myopie de la démocratie. Parce qu'on voit une démocratie pour le lendemain. On ne voit pas une démocratie pour le long terme. Moi, je veux une démocratie pour le long terme.
Qu'est-ce qui menace cette démocratie ?
Mais c'est déjà, on prend simplement la participation.
Vous pensez que la démocratie est menacée en France ?
Elle est menacée en France.
Mais alors, qui la menace ? Et comment est-elle menacée ?
Elle est menacée parce que tout simplement, la population ne croit plus aux politiques. La population ne croit plus en son institution.
C'est-à-dire qu'il y a trop d'abstention pendant le vote.
Trop d'abstention. La population n'est pas entendue quand elle demande des choses. On a vu avec le référendum européen, ils ont décidé non. Et derrière, le président Sarkozy a réussi à faire passer ça par le Parlement. Donc vous voyez, ils ne croient plus. Il faudrait qu'on les écoute et qu'on suive. Regardez le cas de la Martinique. Ils le disent. On est là, on subit quelque chose. Vous nous avez promis plein de choses. Dans 10 ans, dans 20 ans, aujourd'hui, ça fait plusieurs années, on est toujours dans le même marasme. C'est la même chose. Vous voyez, quand vous prenez, je prends un exemple, si on prend l'exemple d'un enfant qui naît, son père lui dit, tu sais, tu seras médecin. Il commence à faire les études pour être médecin. Et il trouve une autre passion. Le parent va faire quoi ? Il va foutre son enfant à la porte ? Non, il va plutôt l'encourager. Et c'est ça aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, la population veut prendre un autre virage. Les politiques, au lieu d'encourager la population à prendre ce virage et à les soutenir, à les encadrer, c'est plutôt, non, si vous faites ce virage, vous êtes contre la République.
Alors, Stéphane, vous êtes d'origine africaine, vous avez fait un petit peu votre bonhomme de chemin sur le plan politique. Vous voyez l'état de l'immigration en France, vous voyez les réfugiés qui arrivent notamment d'Afrique, vous voyez les discours politiques, notamment à l'extrême droite, sur la nation, le droit du sol qu'il faut remettre en cause, etc. etc. Comment vous accueillez un peu toute cette offensive xénophobe, pas seulement en France, mais en Europe ?
Je dirais que cette xénophobie est caractériel de la crise. Vous savez, depuis de nombreuses années, à chaque fois qu'il y a une crise, on remet sur le tapis le côté identitaire. Oui, vous n'êtes pas français, oui, vous n'êtes pas européen, oui, il faut être chrétien, oui, il faut... Mais aujourd'hui, je suis désolé, monsieur Kétal, vous êtes d'origine africaine aussi. Mais est-ce pour autant que vous n'êtes pas français? Vous vous sentez bien français. Donc, tous ces extrémistes, moi, comment je le ressens? Comme une agression. Comme une agression, parce que je me sens agressé dans ma peau en me disant, mais je suis français, je défends la France.
On a l'impression que depuis 40 ans, c'est votre âge, à chaque fois on ressort
cela, le bouc émissaire. Tout à fait.
C'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache la forêt.
Tout à fait.
Pour régler les comptes entre eux, ils le règlent sur le compte de l'immigration,
tout
des Africains, des Maghrébins, etc.
Mais c'est ce qu'ils cherchent. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, c'est que au lieu de montrer ce qui ne va pas aux Français, on préfère montrer plutôt ce qui est là, ce qui vit dans la France, et que les politiques ont échoué. Vous voyez, ils ont échoué l'intégration déjà des migrants qui arrivent. Ils ont échoué dans les politiques de coopération à l'international. Ils ont échoué dans la politique économique avec les entreprises qui vont à l'étranger. Tout ce qu'ils font, c'est ramener de l'argent, profitons, et quand ça va pas, c'est l'étranger.
Alors, on a des thématiques qui aujourd'hui ont pénétré toute la classe politique de gauche à droite, comme la préférence nationale. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent abolition du droit du sol, immigration zéro et réforme de l'espace Schengen? Qu'est-ce que vous répondez par exemple sur ces trois points?
Mais ces trois points, moi je réponds tout simplement. Je suis d'accord avec eux à une condition.
D'accord sur la réforme du droit du sol.
Vous allez comprendre. Je suis d'accord à une condition. Vous ramenez tous les Français du monde entier qui restent en France et vous fermez la France. Est-ce possible?
C'est-à-dire que vous êtes dans une réciprocité, quoi.
Voilà.
Ce qui est valable pour les Français à l'étranger doit être valable pour les gens d'origine étrangère en France.
Tout à fait. Et donc, si on travaille avec la diplomatie, avec les ambassades dans le monde entier, c'est qu'on est ouvert, c'est qu'on accueille les touristes. Je vois bien sur les chaînes de télévision, quand on dit, oui, il y a eu la crise sanitaire, on n'a pas eu assez de touristes, tous les commerces ferment et tout est vraiment en perdition. Mais qui fait ça? C'est l'étranger. C'est les migrants. Comme nous aussi, on va à l'étranger. On va visiter.
Vous écoutez ce que raconte Zemmour.
Oui, mais Zemmour n'est pas un baromètre.
C'est le grand. Non, mais c'est Zemmour plus Le Pen plus une grosse partie de la droite normale, c'est 40% des voix. Oui. Donc c'est 70% d'un peu des opinions dans les sondages. C'est le grand remplacement. C'est la menace de l'islam.
C'est ce qu'on met en avant.
Un changement de civilisation.
C'est ce qu'on met en avant pour dire oui, il y a la menace de l'islam, oui, il y a la menace de tout cela. Sauf qu'aujourd'hui, chacun a son voisin, chacun a quelqu'un autour de lui qui est soit d'origine africaine ou autre. Regardez un truc qui est très marrant. On nous parle de tout ça, mais le président Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien mis des conseillers africains auprès de lui. Pourquoi n'a pas mis des conseillers américains auprès de lui? Des conseillers asiatiques, mais des conseillers africains. Parce que tout le monde sait que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est là-bas l'avenir. Donc aujourd'hui, Monsieur Zemmour peut tout mettre en avant en disant oui, comme Madame Marine Le Pen, oui, je ne veux pas des migrants tout, mais elle est bien allée dernièrement en Mayotte, hein. C'est bien, on va dire un pays, un département qui est collé à l'Afrique.
Donc on stigmatise les communautés, mais on veut bien récupérer leur voix.
Voilà.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM.
Alors Stéphane Tautuy, candidat à la présidence de la République en 2022, et donc lutte contre les discriminations, les inégalités. Bien sûr, vous défendez le droit du sol et la réciprocité partout où se trouvent les Français.
Et
la mobilité de façon générale. Tout le monde devrait être mobile. Et il y a quelque chose qui vous tient à cœur, en particulièrement, c'est ce que vous appelez le permis de parentalité. Alors expliquez-nous.
Tout à fait. Le permis de parentalité, parce que tout simplement... Beaucoup de parents aujourd'hui sont désarmés par rapport au fait d'avoir un enfant, de vivre, on va dire, en couple. On le voit aujourd'hui avec les statistiques. Près de, je dirais, un tiers des parents sont des mères isolées ou des parents isolés. Ce qui représente à peu près 28%. C'est trop. Souvent, les enfants sont aussi abandonnés parce que les parents ne peuvent plus prendre des responsabilités. Donc, ils traînent dans les quartiers, ils traînent dans les cités. Et demain, ça devient un peu, je dirais, des gangsters ou des personnes non sociables. Moi, je voudrais permettre à ce que tous ces derniers puissent être accompagnés par les services de l'État. Puissent être accompagnés lorsqu'on va, pour avoir un enfant, on le voit quand une maman va accoucher, elle est accompagnée par des sages-femmes. Mais moi, je voudrais, au-delà des sages-femmes, avoir des personnes qui vont l'accompagner, lui montrer quand un enfant aura a des coliques ou tout ça, pour qu'elle soit armée. Lui montrer comment encadrer. Vous savez, je suis d'origine africaine, comme je vous l'avais dit, mais en Afrique, c'est toute la communauté qui nous encadre. On est accueilli, on est éduqué par la communauté. Sauf qu'ici en France, c'est dans l'individualisme, les personnes sont seules. Souvent les parents même sont des parents.
En fait, ce que vous dites, c'est que par rapport aux parents isolés, aux femmes seules, aux enfants un petit peu en situation de détresse, etc., il y a des aides, bien sûr, les aides parentales et les aides économiques, mais ce que vous mettez en avant, c'est plutôt une assistance avec, évidemment, peut-être des aidants,
qu'on peut appeler des aidants,
mais élargir le cercle familial, entre guillemets.
Tout à fait. Alors,
en fait, créer une famille avec ses aidants et l'associer à ses aides matérielles.
Tout à fait.
C'est intéressant comme proposition.
Parce que c'est de pouvoir permettre ça. Regardez aujourd'hui, je prends un exemple. Hein.
Réinstaller de la famille.
Tout à fait.
De l'affect. De l'affectivité.
Tout à fait.
À l'intérieur des gens qui sont en situation de détresse,
tout
de précarité ou d'isolation.
Tout à fait. Parce qu'on le voit. Quand il y a des familles, on va dire, aisées et autres, ils sont toujours ensemble. On dit oui, ben voilà, ils vivent bien, ils n'ont pas de problème. Mais c'est parce qu'ils sont en clan. Mais aujourd'hui, des familles dans des cités, dans des quartiers difficiles, sont souvent toutes seules. Et les parents souvent travaillent très tôt le matin, très tard le soir. Et les enfants sont éduqués par qui ? La télévision, l'entourage. Donc ils sont en perdition. Je dirais aussi à l'institution qu'on doit revoir, l'éducation. L'éducation nationale est là pour instruire les enfants, pas pour éduquer. C'est aux parents d'éduquer les enfants. Donc il ne faudrait pas changer les rôles. Or l'éducation nationale est obligatoire. Donc aussi l'éducation au niveau de la famille doit être obligatoire. Et donc moi, dans mon programme, je voudrais mettre à l'âge de 16 ans, de 16 à 18 ans, une obligation ou une incitation à ce que les jeunes aillent dans le service civique obligatoire pour apprendre le quotidien, la République et savoir les droits et les devoirs. De 18 ans à 21 ans, ils vont aller dans une nouvelle forme du service militaire que je vais ramener. Dans ce service militaire, on aura un partant qui sera le service militaire typiquement, et l'autre partant sera le temps éducatif. S'ils sont universitaires, ils auront des profs de l'université qui vont les accompagner. S'ils veulent aller dans des grandes écoles, il y aura des profs des grandes écoles qui seront là pour les accompagner. De telle sorte que quand ces derniers quittent le service militaire à 21 ans, ils sont aptes à entrer dans la société et à pouvoir travailler et être pris en charge. Donc, je ne voudrais pas qu'on dise, oui, ces derniers sont là, c'est vraiment les camps de la République, ils doivent être toujours assistés. Non, personne ne doit être assisté. L'État doit reprendre en main tout cela. Ne laissons plus là dans l'amateurisme. Ça fait 40 ans que on voit des présidents qui défilent, mais aujourd'hui, ils ne
vous êtes pour renforcer
rien.
Le pouvoir régalien de l'État.
Tout à fait.
Dans ce type de précarité.
Tout à fait.
Quand saurez-vous si vous êtes retenu, parce qu'il faut des parrainages.
Il faut des parrainages, effectivement.
Vous avez combien de parrainages aujourd'hui?
Vous savez, aujourd'hui, à part celui qui est un grand parti, peut dire le nombre de parrainages qu'il peut avoir, puisque ce sont particuliers donneurs. Mais ceux qui n'ont pas de parti, comme moi, parce que bon, j'ai un mouvement qui me soutient, donc qui s'appelle Tous France, un mouvement citoyen. Aujourd'hui, on n'a pas d'élus. Donc on va à la conquête des parrainages. Mais sachez que les parrainages sont... L'autorisation de donner un parrainage est ouverte qu'à partir du 30 janvier. Donc à partir du 20 janvier, ils reçoivent les courriers de la préfecture qui est nominatif. Donc un maire, un élu peut donner qu'un seul parrainage. Et le 30 janvier, c'est là qu'ils commencent à donner les parrainages. Donc moi, je peux pas vous dire combien de parrainages j'ai.
Alors, est-ce que le chiffre de 500 parrainages vous paraît juste? Pourquoi faudrait-il pas peut-être 200? Pourquoi pas 800? Pourquoi pas 450? Ce chiffre de 500, il est arbitraire.
Je trouve ça injuste. Totalement injuste. Pourquoi? Injuste déjà parce qu'il y a une loi qui est passée, là en juillet 2021, qui dit tous les élus qui donnent des parrainages déjà doivent être affichés sur le site du Conseil constitutionnel. Donc beaucoup d'élus refusent maintenant de le donner.
Or ils étaient prêts. Parce que maintenant c'est le public.
Tout à fait. Or ils étaient prêts à pouvoir permettre la pluralité démocratique à avoir d'autres partis.
Pourquoi on ne pourrait pas avoir de parrainage de conseillers municipaux, de maires adjoints?
C'est ce que je voudrais pousser. C'est que tout élu de la République.
On peut essayer de réformer la démocratie aussi.
Voilà.
D'où la représentativité dont vous parlez.
Tout à fait. C'est pour ça que quand je parle de démocratie
participative. Pourquoi obligatoirement un maire? Pourquoi un maire?
Moi c'est un élu de la République. Un président d'association, puisqu'ils sont déclarés, donc c'est officiel, un président d'association, un président de la société civile, et là-dessus, rajouter peut-être 1000 parrainages de citoyens qui votent, qui ont leur carte d'électeur.
Alors, Admettons, vous avez des parrainages. Bon, je crois que ça va être compliqué pour vous d'arriver au second tour. Donc, est-ce que vous avez une idée pour qui vous appellerez à voter pour le second tour ou...
Pour l'instant, j'appelle personne à voter pour le second tour. D'abord, je me concentre sur le premier tour.
Est-ce qu'il y a des gens, des candidats qui sont plus proches de vos idées?
Pour l'instant, je dirais personne. Mais je regarde, j'observe. Et en fonction de des propositions, en fonction de ce qui va se passer dans quelques mois, on saura. Parce que si un candidat voudrait avoir, je dirais, les personnes qui m'entourent, il devrait aussi accepter les propositions qu'on fait.
Eh bien, écoutez, Stéphane Tautu, merci d'être venu dans cette émission. On se retrouvera de temps en temps, on espère, tout
avec
au courant
plaisir
de cette campagne, dans les différentes émissions de Beurre FM. Ça a été un plaisir que de vous recevoir. Et à très bientôt.
À très bientôt, merci de me recevoir.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.